Vous écoutez RTL.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour notre dernier vendredi de la saison. Ça va Sidonie, il ne faut pas pleurer. Hein.
J'ai un peu de mal.
Quelle mauvaise comédienne, franchement.
Bonsoir Thomas, salut les curieux. Au programme. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up. Des secrets sur la naissance du rock'n'roll. Saviez-vous que la première rockeuse était une bonne sœur noire? Kelvis a construit sa légende grâce aux chansons des autres. C'est fou, mais c'est vrai. Et notre invité vous fera plein d'autres révélations.
Et Chuck Berry, c'est bon Chuck Berry. Allez, puis écoutez bien. Écoutez bien, une histoire de pouvoir, de sexe et de meurtre. Elle s'appelait Marie Meyer. Elle était l'amour caché de JFK. A-t-elle été assassinée parce qu'elle en savait trop? Réponse vers 21h20 sur RTL.
Et tout de suite, la passion d'un écrivain pour sa créature, Frédéric Dard et San Antonio.
La curiosité est un vilain défaut.
Je comprends pas que certains auteurs soient jaloux de leur créature. Moi, quand je vois que San Antonio est entré dans le Larousse, ben je suis heureux, je biche, c'est mon enfant.
RTL.
Un père est heureux quand son fils réussit. Ben, j'ai fait un grand garçon qui se défend bien, je suis satisfait, quoi. On se dit, bon, ben, la suite est assurée.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Frédéric Dard, un écrivain gargantuesque, fou d'aventure, de jeux de mots, ivre de son imagination. Mais comment est-il devenu l'un des plus gros succès de l'édition française? Réponse avec notre invité. Bonsoir Éric Bouillet.
Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, vous avez un CV bien long. Médecin, publicitaire, muséographe, enseignant et écrivain.
Quel est... Joli.
C'est joli, bravo. C'est quoi le premier San Antonio que vous avez lu?
Bien incapable de vous répondre, pour être sincère, ça remonte à mes 16 ans. J'ai un peu oublié, ce que je peux vous dire, le souvenir que j'en ai, c'est que j'ai beaucoup ri. Or, comme à l'époque, moi, ma culture littéraire, c'était Lagarde et Michard, et le trio Zola, Balzac, Stendhal et Flaubert, je ne savais pas qu'on pouvait rire autant avec un livre, et ça, c'est mon premier souvenir.
C'est quoi l'écriture de San Antonio, l'écriture de Frédéric Dard? Vous nous en lisez un extrait? Vous avez ça sous la main?
Ben oui, je vous en ai mis un de côté.
Ah,
vous allez peut-être être déçu aussi parce qu'il n'y a pas d'argot, vous allez voir.
Allez-y.
C'est un très bel hommage à Beru. On reparlera sûrement de Beru. Beru, c'est le diminutif de Berrurier, un personnage incontournable des San Antonio. Et c'est un extrait aussi d'un livre incontournable qui s'appelle Le Standage, un des plus grands succès des San Antonio. Oui, tu es sans haine et aussi sans crainte, Beru. Conscient d'être un homme et essayant de l'être de tout ton sang et de tout ton cœur. Tu ris et tu manges parce que c'est bon et que ça fait du bien. Et puis tu n'es pas de ceux qui s'imaginent qu'un miroir est une compagnie. Ah, Beru, Beru forever, Beru fort et vert, Beru prodigieusement vivant au milieu de la nécropole, Beru puant l'ail et la vinasse, mais prophétisant des vérités organiques. Ô Beru, notre ami, reste parmi nous jusqu'au bout du monde, toi qui sais la vie, toi qui sais l'amour et plus encore l'amitié.
Une écriture unique, un style unique.
Il y a beaucoup de choses dans ce que je viens de lire, si on s'amusait à décortiquer ça. Et bien d'autres choses que simplement le plaisir des mots qu'il y a dans San Antonio dès qu'on commence à le lire un petit peu d'une manière...
Il y a quoi alors?
Ah ben, il y a une réflexion sur l'homme, sur la société, et une espèce de philosophie extrêmement rafraîchissante. Et il y a de quoi bâtir une vie d'homme, ça a été mon cas, je me suis énormément inspiré. Je ne savais pas si j'allais forcément tomber comme ça dans cette littérature et dans tout ce qu'il m'enseignait, mais ça a été un professeur de vie, un maître à penser.
Alors je vais vous avouer quelque chose, je n'ai jamais lu un San Antonio, ça manque à ma culture générale, et ce que vous venez de nous lire me donne très très envie de me plonger dans un San Antonio. Donc racontez-moi, Beru par exemple, Berrurier, c'est qui?
Berrurier, c'est un personnage qui est apparu pas tout de suite, au 15e San Antonio.
Ouais.
C'est une caricature, Berrurier. C'est une caricature du français dans ce qu'il a de plus généreux, de plus spontané, dans le bon sens, mais aussi dans la gauloiserie, dans la paillardise. Et donc c'est un personnage dans lequel on a de la peine à se retrouver parce que physiquement il est débordant de tout. Mais quand on gratte un petit peu, on a tous en nous du Béru. C'est ça qui est étonnant. Mmh. Mais on a tous en nous du Santonio. Et on a tous, on aimerait tous avoir une mère comme Félicie, qui est aussi un personnage incontournable.
C'est qui Santonio ? C'est le commissaire, l'enquêteur ?
Ah, ça, c'est très compliqué. C'est bien sûr un commissaire. Mais c'est aussi l'auteur. Santonio, parce qu'en 1978, Frédéric Dard a disparu et tous les livres qu'il a écrits, même les livres où il n'y avait pas les personnages de la série, Santonio, Béru, Félicie, eh bien même ces livres-là étaient signés Santonio. D'où la confusion.
Ouais. Alors on verra qu'il a pris plein de pseudos écrits sous des noms tous plus surprenants les uns que les autres. Vous publiez le dictionnaire amoureux de Santonio aux éditions Plomb, et Sidonie le disait tout à l'heure, c'est pléthorique, 192 aventures. Ça veut dire qu'il écrivait combien de livres de Santonio ou autres par an, Frédéric Dard ?
Il a eu des périodes jusqu'en 1965 où il a écrit jusqu'à 10 livres par an. Et il faut savoir qu'il a commencé sa carrière comme journaliste.
Oui.
On a recensé plus de 300 articles, contes et nouvelles entre 1940 et 1950, 1938 et 1950. Et puis après 65, il est tombé dans une espèce de, enfin de routine, c'est pas un mot très qui lui va très bien, mais il écrivait 400 Antonio par an, plus un hors-série, si je peux dire.
C'était ça sa routine, c'est énorme. C'est, pour un écrivain,
tous les matins, les matins à son bureau, il écrivait 4 à 6 pages. Vous faites le total en 2 mois, ça fait 220 pages. Vous avez un livre.
Que disait Frédéric Dard de son talent ? Parce qu'il avait un talent fou.
Alors on l'a écouté là au départ. Je ne le crois pas une seconde. Faut pas croire ce qu'il vient de dire.
Il a pas de talent, mais de l'imagination.
Oui, il a pas de talent, mais il a de l'imagination. Puis en fait, il y a quelque chose de très très troublant, c'est que il a lutté contre son personnage de Santonio pendant toute sa vie. Aucun auteur, je pense, n'a autant dénigré son œuvre que Santonio lui-même.
Pourquoi ? C'était de la fausse modestie ? C'était le regard de l'intelligentsia porté sur son œuvre qui finissait par l'obliger à faire ça ? Pourquoi il réagissait comme ça ?
Il réagissait comme ça parce qu'il avait une ambition littéraire énorme. Il a écrit son premier livre à 17 ans. Mmh. Et il était extrêmement ambitieux. Et Santonio n'est que l'aboutissement des pseudonymes qu'il a choisis. Il a choisi une trentaine. Pourquoi il choisissait des pseudonymes ? C'était tout simplement pour cacher son nom et réserver son nom à son œuvre. Et Santonio, pour lui, n'était qu'un pseudonyme de plus. Et il ne comprenait pas pourquoi il avait un tel succès.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Santonio, vous en avez peut-être lu en cachette, ou alors au contraire, vous êtes régalé aux yeux de tous. On vous raconte le destin de son auteur, Frédéric Dard, avec l'écrivain et médecin Éric Bouillet. Alors, il y a eu 183, c'est ça pour être précis, aventures de Santonio ?
Oui, exactement.
Et combien de romans à côté ?
Une centaine de romans sous le nom de Frédéric Dard, plus 30 pseudonymes.
Mais alors, les pseudonymes, il y en a quelques-uns, ils sont drôles, il faut les citer quand même. Caput, L'Ange Noir, Cornel Milk, Marcel Georges Prêtre, Frédéric Charles, Frédéric Anthony, Max Beating, Verne Goody, Well Norton, Antonio Giolotti, etc. etc.
Et Thomas Hugues.
Non. Pourquoi autant d'identités ?
Pour cacher son nom.
Il se cachait, oui, c'est ça.
Vous avez parlé de Marcel Prêtre. Lui, c'était un auteur. Il a écrit au moins cinq livres. On ne sait pas très bien. Au moins 5 livres pour cet auteur.
Ah, c'était
un
de ses
amis. C'était son aigle. Ouais. Et Berthomieux aussi. Je ne sais pas, non, vous avez un deuxième.
Mais
les
André
autres,
Berthomieux,
oui. Voilà, les autres, ce sont des pseudonymes qu'il a inventés.
C'est Santonio, il en écrit énormément, 4-5 par an,
oui.
C'est ça. Ils se vendent comme des petits pains, ces romans ?
600 000 exemplaires par an à partir de 1965.
600 000 exemplaires
pendant
chaque
30
roman
ans, pendant 30 ans, 4 fois par an.
Donc il était très riche.
Oh, oui, accessoirement.
Bah oui, forcément.
Mais riche à quel point, pour imaginer, ça se voyait ? Qu'il était riche, ben, il avait un comportement
Il a été très pauvre.
De
il
riche.
A été très pauvre. Son père a fait faillite à la suite du krach de 1929. La répercussion s'est faite même dans le Dauphiné. Il a fait faillite. Donc ils se sont retrouvés ruinés. Et il s'est juré que plus jamais il se retrouverait dans une telle infortune. Et donc, quand il a gagné beaucoup d'argent, il a d'abord réagi comme un gosse. Il s'est payé
des jouets,
des chalets à Hagstatt, des belles voitures, des jouets, quoi. Et puis, il a surtout donné énormément d'argent. Il a salarié son père pendant 30 ans. Comme ça, son père n'a plus à travailler. Il a offert une boutique de farce et attrape à sa sœur.
Il a même fait baisser les impôts locaux de sa ville. En Suisse ?
Oui, en Suisse, oui, bah parce qu'il finançait toutes les associations, donc il n'avait plus besoin de payer des impôts locaux, il payait pour tout le monde.
Et il avait vraiment 100 voitures ? Il était collectionneur de voitures ?
Non, il n'avait pas 100 voitures, il a eu une centaine de voitures.
Mais pas tout en même temps, oui. C'est ça ?
D'ailleurs, le seul luxe visible qu'il a gardé dans les dernières années de sa vie, c'était le vin. Grand collectionneur d'Ikem. Je vous invite à lire le livre sur Ikem dont il a fait la préface, qui est un des textes de Frédéric Dard.
Château Ikem, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pardon, éventuellement, c'est un sauterne, donc un vin blanc, liquoreux, merveilleux. Oh, c'est un bonheur pur, ça.
Ouais.
Plus ils sont vieux, plus ils sont ambrés, c'est du plaisir, ça. Et donc, ce Frédéric Dard, qui signe sous X pseudo et qui se cache derrière ces pseudos, que pense-t-il de la critique ? Que dit la critique de ces San Antonio ?
Eh ben, au début, la critique est inexistante parce que c'est du roman de gare.
Ouais. Elle l'ignore.
On ne va pas perdre son temps. Ah. Il y a un seul gars qui s'appelle Maslowski, qui a une revue qui s'appelle Mystère Magazine, qui a flairé que c'était quelque chose d'important, qui fait des articles sur chaque San Antonio. Plus le canard enchaîné, vous ne serez pas étonné. Mmh. Et puis Cocteau s'y met en 65, et un universitaire à Bordeaux qui crée le premier colloque universitaire sur San Antonio.
Qu'est-ce qu'il dit Cocteau de Frédéric Dard, de son écriture ?
Ah, il disait des belles choses.
C'est de l'écriture en relief, un aveugle pourrait les lire avec la peau des doigts, c'est un compliment ?
Ah, je crois, oui. Ouais. Oui. Plus qu'un compliment. Et il disait aussi « J'achète un San Antonio, je l'ouvre et voilà votre cœur qui saute sur le mien. Une merveille de grâce. »
Mais donc, ça aurait...
Bon,
ça...
c'est du lyrisme à la Cocteau.
Oui, mais ça devait lui faire du bien à Frédéric Dard de lire ça. Je ne comprends pas bien le... Parce que vous nous dites qu'il a continué de se cacher comme ça pendant très longtemps.
Il s'est pas caché, il a dénigré les San Antonio.
Oui, c'est pire. Ouais.
Et aucun auteur n'a autant insulté son lectorat que San Antonio.
Mais le lectorat aimait ça.
Mais on en raffolait.
Non,
mais
ça faisait partie du folklore.
Quand il m'insultait, il faut que je vous dise que quand je lisais un San Antonio, je pensais qu'il l'écrivait que pour moi, bon, même s'il y avait 600 000 exemplaires. Oui. Mais ça, c'est une déformation qui arrive au bout de quelques dizaines de San Antonio. Et quand il insultait le lecteur, ça me concernait pas. J'étais très content. Vas-y. Et donc, je m'en sortais comme ça.
Aujourd'hui, Frédéric Dard est reconnu comme l'un des auteurs majeurs de la littérature française. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Qu'est-ce qu'il a changé dans cette littérature ?
Qu'est-ce qu'il a
libéré ? Qu'est-ce qu'il a créé ?
Eh bien, Coluche est un enfant de San Antonio, de Frédéric Dard. Desproges est un enfant de Frédéric Dard. Et plein de comiques et plein d'auteurs aussi qui s'en sont inspirés à nouveau de ce qu'il a fait, de cette liberté extraordinaire.
Oui, il a permis à d'autres d'oser après lui, c'est ça ?
Voilà. Et lui, il osait tout. Il le disait, j'ai tout osé parce que je savais que tout me serait pardonné.
Alors vous publiez un dictionnaire amoureux de San Antonio chez Plon, et l'un des chapitres, c'est le mot B comme bipolaire. Pourquoi ?
Ah, bipolaire... c'est une maladie.
Oui.
C'est une maladie dont il était atteint. Alors, je ne veux pas trop parler de ça parce que parler de la maladie chez lui, en gros, il avait des périodes dépressives et des périodes maniaques. Mais ce qui est extraordinaire et qui n'a peut-être pas d'équivalent dans la littérature, universelle, hein, c'est qu'il a inventé la littérature bipolaire. Je vous parlais des 100 Frédéric Dard, ce sont des romans noirs, il y a presque le mot mort dans un titre sur deux, des romans d'angoisse, des romans obsédés par la mort,
sans argot, sans humour non plus.
Pas beaucoup, hein.
Pas beaucoup.
D'accord. Mais des descriptions psychologiques de personnages extrêmement fortes. C'est le côté noir, dépressif. Et de l'autre côté, vous avez 183 San Antonio, et où là, c'est le débordement dans les mots, dans les excès de tous les genres.
Et cette bipolarité, elle se voyait, Éric Bouillet, sur Frédéric Dard ? C'est-à-dire, quand on le rencontrait, il était quoi ? Affable, égrillard comme San Antonio, triste comme ses romans ?
Pas du tout. Pas du tout. Quand on le rencontrait comme ça, je ne l'ai vu qu'une fois, mais j'ai des témoignages, c'était un homme extrêmement gentil, extrêmement bon, mais j'ai des témoignages aussi de sa vie privée, où il avait ses périodes extrêmement dépressives. Sa femme, Françoise, sa deuxième épouse, lui disait, chaque fois qu'il commençait un Frédéric Dard, elle lui disait, tiens, ça y est, tu vas encore rentrer dans ta période dépressive. Bon, c'est pas si simple que ça. Hein. Ouais. Il faisait pas des Frédéric Dard dans sa période dépressive et des Santonio dans sa période maniaque. Mais le résultat dans la littérature... Si vous ne savez pas que Frédéric Dard et Santonio, c'est le même auteur, vous ne pouvez pas le deviner uniquement à la lecture.
Alors, vous nous avez dit qu'il était originaire du Dauphiné, c'est ça ?
Oui.
On va raconter la vie, l'enfance de Frédéric Dard, comment Frédéric Dard est devenu Santonio. Restez avec nous sur RTL.
Bienvenue sur RTL, les curieux. Vous écoutez RTL.
RTL.
Le président de la République a disparu. Je vous donne 48 heures pour le retrouver. Après, je ne réponds plus de rien.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous êtes tombé sur la tête d'un seigneur.
Mais enfin, ma petite caille.
Elle t'en mange, ma petite caille.
Jusqu'à 22h.
Est-ce que tu sais que t'es incapable?
Maintenant, bah, parfois, mais du moment que tu me le dis.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
San Antonio, avec Gérard Lanvin et Gérard Depardieu. Sur
RTL.
Il a inspiré des films, mais Frédéric Dard a aussi vendu 250 millions de livres en 50 ans. Il a écrit 183 San Antonio, 100 romans parus sous son propre nom, 22 pièces de théâtre, 300 nouvelles. Vous voulez que je continue ? Ah oui, bah puis oui. 100 bagnoles aussi dans sa vie. Bon, voilà quelques excès, quelques folies, quelques talents d'un homme, l'écrivain Frédéric Dard, raconté par Éric Bouillet au micro de La Curiosité sur RTL. Frédéric Dard, né le 29 juin 1921 à Bourgoin-Jallieu, c'est en Isère. Dans quelle famille ? Bourgeoise,
son...
modeste ?
Non. Son père, non, c'était pas des bourgeois. Son père travaillait à l'usine de Dietrich. Hein, c'était des gens assez simples. Et comme je vous disais, son père a fait faillite. Ça a été très difficile. Et ils sont partis d'ailleurs à Saint-Chef, qui n'était pas très loin de Jallieu. Ce n'était pas encore Bourgoin-Jallieu. Mmh. Ils sont partis à Saint-Chef à la suite de cette faillite. Ils ont été accueillis par des gens et qui leur ont donné du travail, qui les ont logés. Et puis après, ils sont partis à Lyon pour essayer de se refaire financièrement.
Qui fait découvrir la littérature à Frédéric Dard, au jeune Frédéric Dard ?
Alors là, il y a un personnage essentiel dans sa vie qui est sa grand-mère. Et sa grand-mère qui a accouché d'ailleurs sa belle-fille, donc la mère de Frédéric Dard. Elle était infirmière et accoucheuse, donc c'est elle qui l'a accouché. Et quand l'enfant a eu 4-5 ans, qu'il a eu une petite sœur, elle l'a pris sous sa coupe et elle est partie avec lui, enfin avec l'accord des parents. Mmh. Et il va passer des années, plusieurs années avec sa grand-mère, qui est une boulimique de lecture. On l'appelait Madame Larousse. Une femme assez autoritaire, pas forcément très, très agréable, mais qui l'a... À 12 ans, il avait lu Dostoïevski, mais il avait lu aussi Les Pieds-Nickelés et Bibi Fricotin.
Donc c'est un grand lecteur. Est-ce qu'il devient pour autant très vite un jeune écrivain ? Parce qu'on peut être grand lecteur et ne pas écrire une ligne dans sa vie.
Oui. Oui. Il vient très vite. Il écrit son premier roman à 17 ans.
Ah oui.
Et puis, bon, avant, il y a des essais qu'on a retrouvés, des compositions françaises, mais c'est de 18 pages. C'est absolument étonnant.
Et la note, elle est bonne en rouge sur cette composition française ou pas ?
Oui,
tout à fait. Les instits ont su déceler le talent ?
Il a le prix Luc Dounoum, qui est un prix relativement important, même s'il est local, à 21 ans, avec son deuxième roman, Monsieur Jauss, quand même.
Alors moi, j'ai découvert dans votre dictionnaire Amoureux de San Antonio que Frédéric Dard avait un handicap à l'un de ses bras. C'est ça ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Alors, ce qui lui est arrivé, je le raconte. Ce qui est arrivé, mais je suis médecin, j'ai peut-être un petit peu... j'ai essayé d'imaginer. Mais
ne le sait pas vraiment, c'est ça ?
On ne le sait pas vraiment, mais il y a très peu d'incertitudes. C'est une mauvaise manœuvre au moment de l'accouchement. Il est né par le siège et c'est pas toujours facile. Le siège, ça veut dire qu'il sort...
C'est les fesses d'abord.
Les fesses en premier, voilà. C'est ça. Et donc, c'est pas toujours facile parce qu'il faut tirer la tête. Et on n'est pas sûr que la tête va passer. Donc,
et c'est sa grand-mère qui...
Et sa grand-mère, et voilà. Alors peut-être qu'elle a culpabilisé aussi de ça parce qu'elle s'est beaucoup occupée de son bras. Et ce bras était un véritable handicap. Et vous imaginez qu'à l'école, les gamins se moquaient de lui.
Il était quoi, atrophié ? Il était inerte ?
Il bougeait quand même un peu les doigts. D'ailleurs, il amenait, pour taper à la machine, il amenait sa main sur le bord gauche de la machine. Et puis, il tapait quand même avec deux doigts. D'accord. Mais sinon, il ne pouvait pas lever le bras était inerte.
Alors on va parler des rencontres qui ont bouleversé, donc il y a sa grand-mère, des rencontres qui ont bouleversé Frédéric Dard. À 16 ans, il rencontre un certain Marcel-Étienne Granchet. Comment et puis qui est-il ?
Alors, c'est un peu le hasard, c'est son oncle qui s'occupait de la voiture de ce monsieur qui lui présente. Parce que l'oncle a deviné que le jeune Frédéric Dard, qui fait des études de comptabilité, c'est pas son truc, et effectivement.
On l'imagine pas comptable, oui.
Ouais, non. Et donc, il lui présente, et Granchet, c'est un personnage tout à fait étonnant, qui est un écrivain très prolifique, et surtout un journaliste qui a créé Le Mois à Lyon, et il va prendre le jeune Frédéric Dard sous sa coupe, il va rapidement lui confier des articles à écrire. Mais la grande rencontre de Frédéric Dard, c'est Granchet qui lui met le pied à l'étrier.
Et qui lui dit « ne fais rien comme tout le monde, ne fais jamais rien comme tout le monde ». Et ça a été son mentor, et une phrase qui l'a aidé à libérer son talent.
Ah ben il a gardé ça en tête toute sa vie, et il a gardé en tête une autre phrase, parce qu'il a rencontré des gens, il a rencontré des journalistes, c'était pendant la guerre, hein, on est en 39 là, la guerre commence, il a rencontré des journalistes, tous les journalistes de Paris qui partaient s'exiler en zone libre à Lyon, et il y avait des personnages, et il y avait notamment, pas parmi les journalistes mais parmi les Lyonnais, un autre personnage qui s'appelait Charles X, qui était un fou génial, et c'est lui qui lui a mis Céline dans les mains.
Oui, Ferdinand Céline, l'auteur.
L'auteur, ouais. Oui. Il lui a mis, il lui a apporté un jour les livres, il lui a dit, écoutez ça, il lui a dit, en lui balançant un livre comme ça au gamin qui avait 19 ans, il lui a dit, lis, tu ne liras plus jamais rien de semblable. Que ce livre soit pour toi une règle de conduite. Ne va pas du côté des cons, ne va pas bêler dans le troupeau, reste en marge. Tâche d'écrire comme ça si tu le peux, comprends et gueule.
Et là, il a bien suivi le conseil.
Vous avez toute la carrière de Frédéric Dard derrière. Et pour autant, il n'a pas copié Céline. Il a aussi trouvé très très vite son style.
Quel objet ne quittait jamais Frédéric Dard ? Craignait-il la page blanche ? Était-il misogyne ? On brise quelques clichés dans la curiosité. Si vous revenez dans un instant sur RTL.
J'espère bien.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le pétoman est mort.
C'est pas vrai.
À son âme. PPET. C'est pas de moi, dommage. J'aurais aimé les inventer, ces titres. C'est du Frédéric Dard, évidemment, l'auteur de San Antonio. On célèbre son destin, on raconte son histoire et son œuvre dans la curiosité. Un demi-siècle d'écriture avec notre invité Éric Bouillet, qui est médecin, écrivain. Entre autres, on ne va pas reciter tous vos métiers. Il y a un objet qui ne quittait jamais Frédéric Dard. Lequel ?
Ah bah, sa machine à écrire. Sa machine à écrire, la fameuse IBM à boules, qu'il a eue à partir début des années 60.
Attendez, IBM à boules ?
Ah, vous ne vous souvenez pas de ça, non, vous
êtes, elle est beaucoup trop jeune. Moi, en revanche, je vois très bien ce que c'est.
Ah, vous voyez. Oui, toutes les lettres sont sur une boule. Et un jour, il a cassé cette boule. Il en a fait un bijou où il est ressorti les lettres du mot « amour » qu'il a offert à son épouse.
Waouh,
wow, c'est joli, beau, ça. Hein.
Il ne se séparait.
Donc, il était romantique aussi.
Oui, c'est difficile à faire hein, en broyant son téléphone, pouvoir faire quelque chose comme ça.
Il avait un autre objet fétiche, me semble-t-il, Frédéric Dard, un dictionnaire. Bah, l'un de ses tout premiers.
Oui, exactement. Sa grand-mère, dont on parlait tout à l'heure, lui a offert l'édition 1927. Et il a gardé très précieusement ce dictionnaire. Il écrivait toujours avec un dictionnaire à côté de lui. Même quand il écrivait ses calembours, ses néologismes, ses à peu près dans les San Antonio, il avait un dictionnaire à côté de lui. Et il a écrit aussi un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire non académique en 1950. C'est très curieux. Il a une trentaine d'années. Ça ressemble à du Bouvard et Pécuchet, si vous voyez ce que je veux dire. Et bon, ça restera pas dans les annales, mais il était fasciné par les dictionnaires.
Bah, il aurait aimé le vôtre, on en est sûr, votre dictionnaire amoureux de San Antonio qui est publié chez Plon. Il y a un homme, tiens, qu'on connaît bien ici, que Frédéric Dard aimait et admirait aussi, c'est Philippe Bouvard.
Oui, 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 ils se sont rencontrés plusieurs fois, deux personnalités fortes, et ils ont dit l'un de l'autre des choses très très belles, je sais. Et je crois qu'il a même été invité aux Grosses Têtes.
Bien sûr, ça a été l'invité spécial des Grosses Têtes. Écoutez, c'était sur l'antenne d'RTL, c'était en 97.
Il a toutes sortes de génies, dont celui du titre et dont celui du titre des chapitres. Bon, parce que si le livre s'appelle « La queue en trompette », vous trouvez des chapitres qui s'intitulent « Un mystère nommé boule de gomme »,« Il vaut mieux un ami intelligent qu'un ennemi con », personne ne l'avait dit avant vous, et toutes sortes de choses qui ont l'air faites pour faire rire et qui en fait sont des choses très très profondes et rarement creuses.
Mais la profondeur est accidentelle chez moi, tu sais, c'est fait pour rire, hein, uniquement.
Et ça, la meilleure façon de ne jamais reculer, c'est de toujours avancer. Personne ne l'avait dit avant vous. Personne. Vous avez le génie de la formule, hein.
C'est fascinant ça, je rejoins ce que vous disiez Éric Bouillet, que Frédéric Dard ne reconnaissait pas sa noirceur, sa profondeur, son intelligence.
La profondeur est accidentelle.
C'est accidentel.
Oui, il aura attendu 77 ans pour qu'un homme, Claude Durand, lui fasse
l'éditeur.
Mmh. Voilà, qui voulait à l'époque avoir les droits des Saint-Antonio alors qu'il avait 77 ans, qui déclinait et qui a demandé à le rencontrer. Ils se sont rencontrés tous les deux, arrivant tous les deux comme des petits garçons aussi impressionnés l'un que l'autre. Mmh. Et je raconte cet épisode, ça m'a beaucoup touché. Et à la fin du repas, Claude Durand lui a dit: Frédéric Dard, vous n'êtes pas un écrivain, vous êtes un très grand écrivain. Et ça, ça a été...
Venant de lui.
Voilà. Peut-être la première fois de sa vie, il s'est rendu compte qu'effectivement, il était un très grand écrivain.
Est-ce que ce très grand écrivain avait la trouille de la page blanche ?
Tous les jours. Tous les jours. Il le raconte d'ailleurs dans des Saint-Antonio, parce qu'il fait énormément de digressions. Il raconte sa vie dans les Saint-Antonio, hein. Il raconte son enfance, il raconte... rien n'échappe à son commentaire. Il avait une trouille bleue. Une trouille bleue. Alors, il avait des trucs. Oui, il cite souvent que c'était pas si difficile que ça. Il suffisait de dire il frappa à la porte et entra. Et puis, et il se passe quoi ?
Il faut bien inventer la suite, c'est ça. Oui. Donc, c'était quoi ? C'était la première phrase de plusieurs de ses San Antonio, c'est ça ?
Non, pas du tout. C'était plutôt un conseil qu'il donnait à ceux qui voulaient écrire, qui ne savaient pas comment commencer. Mais il dit, c'est très simple. Tu commences à écrire et frappe à la porte et entra, et puis tu vas voir, la suite va venir.
Et il s'inspirait de sa vie quotidienne, tout l'inspirait. Philippe Bouvard parlait du 168e San Antonio, La queue en trompette. Comment il a eu l'idée, Frédéric Dard, de ce roman ?
Eh bien, il a eu l'idée parce qu'il avait un chien qui s'appelait Salami, qui a un basset, un gros basset. Et c'était une époque où il était déjà âgé, hein, il avait plus de 70 ans, et il avait de temps en temps, il peinait un peu à imaginer de nouveaux personnages. Et il s'est rappelé ce chien qu'il aimait beaucoup, et il en a fait un personnage qui s'est appelé Salami.
C'est joli pour un chien.
Voilà, lui qui avait adapté Bel Ami de Maupassant, il a adapté au théâtre Bel Ami de Maupassant. Si j'avais eu la chance de le rencontrer à cette époque-là, je lui aurais dit, mais pourquoi appeler ton chien Salami ? Alors, et c'est la queue en trompette, c'est Salami, bien sûr.
C'est Salami. Alors juste avant la pause, si Denis posait la question, Frédéric Dard était-il misogyne ?
Oh ! Voilà, ça l'a poursuivi, ça, beaucoup. Ouais. Hein. Parce que...
Parce que les femmes sont dévêtues en couverture de San Antonio et que dévêtues, et parce qu'elles sont
des
objets de
sexe,
c'est ça ?
C'est qu'il fait souffrir un peu les femmes, San Antonio, ouais. Ouais, le commissaire, ouais. San Antonio. Ouais. Mais c'est comme ça. Au début, il a copié les privés, vous savez, de Peter Cheney, de William Irish, de James Hadley Chase.
Donc les romans noirs de la littérature américaine.
Voilà, où les femmes, tous ces gars-là, c'est des machos. Et bien sûr, c'est aussi un macho, San Antonio. Mais lui, c'était un amour d'homme. Tous les témoignages qu'on a, c'était un amour d'homme. Puis vous savez, dans les San Antonio, il dit, oui, du mal des femmes, mais par rapport au mal qu'il dit des hommes et de la connerie humaine qu'il va pourchasser pendant 50 ans, hein, la chasse au con, un safari sans espoir, c'était cette phrase qui nous a marqué. Je peux vous dire que c'est rien. Les hommes en prennent bien plus pour leur grade que les femmes.
Il y en a pour tout le monde. Frédéric Dard est mort le 6 juin 2000 à Bonnefontaine en Suisse. Il avait 79 ans. Est-ce qu'il avait aussi un bon mot sur la mort ?
Oui, vous savez, la mort, c'était la grande affaire de sa vie. Il a parlé, il a été... angoissé de la mort toute sa vie. Son œuvre entière comporte des allusions à la mort. J'ai retenu un mot où il disait un dialogue. C'est vrai, il pose la question, c'est vrai qu'on a grandi le cimetière, et l'autre lui dit, que veux-tu, la vie continue.
C'est plein d'espoir.
C'est tout à fait.
Et de philosophie aussi.
Oui, plein de philosophie. Ouais. Et il disait aussi cette phrase très belle, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et ça, ça le caractérise, et ça caractérise ce sentiment humaniste qui était celui de Frédéric Dard.
Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. En terminer sur cette phrase, tiens, peut-être un conseil au bisu que je suis. Si je dois commencer là, parce que vous m'avez donné envie forcément à lire un premier San Antonio, je commence par quoi ? Par lequel ?
Par un Frédéric Dard. Lisez « Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches ?»
Quel titre ?
Voilà.
Ok, « Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches ?» C'est noté.
Merci beaucoup Éric Bouillet. Et puis on lit « Dictionnaire amoureux de San Antonio », c'est aux éditions Plon. À bientôt j'espère au micro de la curiosité.
Avec grand plaisir, pour parler de Frédéric Dard, avec grand plaisir.
Et tout de suite, dans la curiosité, les secrets du rock'n'roll.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous écoutez RTL.